grande fête du Vésak. Texte d'introduction. Pour commencer, quelques citations. Extrait de Extériorisation de la hiérarchie. C'est la fête du Bouddha, intermédiaire spirituel entre le centre spirituel le plus élevé, Shambhala, et la hiérarchie. Le Bouddha est l'expression de la sagesse de Dieu, l'incarnation de la lumière, celui qui indique le dessein divin. Une autre citation, toujours extrait du livre Extériorisation de la hiérarchie. La fête du Vésak est célébrée depuis longtemps dans beaucoup de pays, et à mesure que le temps passe et que l'instruction des masses se poursuit, la réunion qui se tient à la pleine lune de mai prendra une grande importance. Toutefois, sa note clé sera changée. Ce que sera cette note clé n'est pas encore annoncé et ne le sera pas avant 35 ans. Ce texte ayant été dicté à Alice Bailey en 1945, nous aboutissons aux environs de 1981 pour ce changement de note clé. Les disciples, sensibles à l'impression, savent d'ores et déjà ce qu'il en est. En 1946, le maître donnait déjà des indications pour notre temps. Je cite, « Dans un avenir assez proche, la durée de son service, il s'agit du Bouddha, arrivera à son terme. Alors, il ne reviendra plus, car le futur avatar le remplacera dans la pensée de tous les peuples. » Fin de citation. Et pour finir, les citations en extrait de Hiérarchie, page 271. Quand l'avatar viendra, il apportera à l'humanité quelque chose qui, jusqu'ici, n'a pas de véritable nom. Ce n'est ni l'amour, ni la volonté telle que nous les comprenons. Seule une expression de plusieurs mots peut, dans une certaine mesure, traduire cette signification, et encore faiblement. Cette expression est le principe du dessein dirigé. Fin de citation. Ces révélations prophétiques du maître tibétain sont pour notre époque actuelle. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les disciples sont sensibles à une inondation de lumière intérieure avec la conséquence de l'émergence du principe du dessein dirigé. Parmi ses disciples, qui incluent les hommes de bonne volonté et les aspirants du monde, et ils sont légion sur notre planète, certains se sentent parfois accablés devant l'immensité du travail à faire pour que l'ordre nouveau et meilleur qu'ils voient puisse commencer réellement à se manifester. Ils voudraient relier efficacement l'ardent désir de leur âme de servir l'humanité avec des moyens d'action plus radicaux que ceux qu'il leur est possible d'employer. C'est alors qu'un sentiment de futilité, voire même d'échec, peut les terrasser jusqu'à les rendre inefficaces, et ce qui est encore plus grave, les faire devenir un poids supplémentaire là où précisément ils proposaient leur service d'allègement. Avant d'en arriver à cette extrémité dramatique et en manière de prévention, ils doivent obligatoirement apprendre ou réapprendre une leçon pratique, celle du non-attachement dans l'action. C'est le non-attachement qui leur permet de devenir libres, donc expertes dans l'action, jusqu'à pouvoir jouer avec les tensions ou les difficultés au point qu'elles deviennent des atouts pour la maîtrise et l'équilibre, et non plus des prétextes ou des justifications de leur chute. Ce non-attachement n'est en fait qu'une conséquence d'un esprit lucide. Il n'est pas un retrait ou une froideur, mais ce nouveau point de vue qui cesse de vouloir faire de toute chose une affaire personnelle. La lucidité ou vision juste est la cause de cette nouvelle manière d'être. Le sujet ne s'identifie plus à ses moyens d'action. Il se sent libre, maître, efficace et allègre. Oui, l'allégresse intérieure, discrète, secrète, persistant au milieu même de l'intensité des plus grands remous, douloureux ou non. Cette nouvelle manière d'être n'est pas atteinte par une volonté tension de la personnalité, mais par une volonté décision de l'âme, conjointe à l'acquiescement de la personnalité. C'est pourquoi elle se révèle aisée, souple, simple, puissante, prompte, véridique. Ce nouvel état résulte d'un épanouissement de la conscience personnelle jusqu'à inclure la zone de l'âme. À ce stade de l'expérience humaine, nous prospectons en nous-mêmes. Et c'est pourquoi l'expérience personnelle seule est révélatrice. Autrement, il n'est pas possible d'imaginer cette transformation. L'état de non-réalisation ne peut concevoir ce qu'est l'état de réalisation. Lorsqu'on peut ainsi voir ce monde à partir du plus vaste monde, les échecs qui peuvent encore parsemer le sentier deviennent des leçons. Et le serviteur ainsi éclairé, armé et libéré ne tombe plus jamais. Pour agir en quoi que ce soit, il donne une partie de lui-même, mais il ne bronche pas et demeure imperturbable, invulnérable. Dans la réussite comme dans l'échec, il garde toujours équilibre, fermeté, lumière. En chacun de nous habite ce facteur qui est l'esprit ou l'œil qui voit et qui dirige. Notre conscience peut et doit l'englober et agir à partir de lui à travers l'âme. C'est à ce moment que l'homme s'exclame: Je vois, et quand l'œil est ouvert, tout est illuminé. À ce stade d'éveil, l'esprit et la matière semblent se fondre en un. En vérité, les mouvements ou formes de la matière sont vus pour ce qu'ils sont, des ombres mouvantes. L'œil de l'esprit voit la lumière illuminée du feu qu'elle est, en discernant simultanément les formes mouvantes et ombrées qu'elle prend. C'est pourquoi tout est illuminé sous ce regard discriminateur. Le voile n'est pas confondu avec ce qui est voilé. Notre esprit est capable d'instant en instant de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'homme, à ce niveau de clairvoyance ou d'éveil, sait qui il est, où il est et ce qu'il doit faire. Il vient de découvrir que seule l'entreprise compte et non plus son moi. Il a l'impression qu'il vient de naître dans l'âme, et ce sentiment ne le quittera plus jamais. Comment serait-il autrement alors qu'il vient, en conscience, de se lier ou de fusionner avec ce qui ne meurt jamais, l'âme en lui? Cet aboutissement, qui est le commencement de la vie éternelle, est à la portée de la main pour tous ceux qui le veulent en consentant de plus à la discipline nécessaire. Regardons autour de nous. Il y a beaucoup plus de gens qui ont le sens de la responsabilité que ceux qui ne l'ont pas encore. Or, le sens de la responsabilité, à quelque niveau que ce soit, est la démonstration de la réalité de notre lien avec l'âme. Après tout, les disciples ne font que confirmer et renforcer ce lien à la suite d'une série ininterrompue de volontés-décisions au cours des jours. Nous possédons de naissance tous les éléments pour croître en sagesse, et parmi ces éléments, le plus difficile à manier et pourtant un des plus beaux est le libre arbitre personnel. Nous nous trouvons à tous instants devant des croisées de chemin et nous devons prendre des décisions. Notre bonne volonté ne suffit plus à ce stade, mais c'est la volonté de bien qui est déclenchée. Le désir du taureau se transforme et devient l'aspiration éclairée, laquelle évoque l'inspiration illuminatrice et réalisatrice. Dans une certaine mesure, chacun de nous, avec l'humanité entière, peut profiter des énergies de lumière qui s'épanchent actuellement, en se laissant pénétrer par elles, puis en les distribuant par un acte de volonté-décision. Alors, comme il est cité dans le livre La lumière de l'âme, d'Alice Bellet, le lieu le plus sombre reçoit la lumière. L'aube se lève sur la terre. L'aurore déverse des hauteurs ses rayons radieux jusque dans l'enfer même. Et tout est lumière et vie.